France Culture.
Nous y sommes, j'y suis. Ma mémoire me faisant défaut, j'ai commencé par me replonger dans mes comptes rendus médicaux. C'est mon fil d'Ariane, je ne veux pas en oublier. Il me faut vous raconter mon combat pour survivre, ma lente, fastidieuse et solitaire bataille pour en être là où je suis. Cette horrible nuit du 13 novembre 2015, je suis au Bataclan. Ce nom n'évoquera plus pour moi désormais que le chaos, la peur, et la mort. Il ne sera plus jamais question de musique, de fête, de partage et d'amour. Les salles de concert, la musique, c'était tout ça pour moi avant la vie.
Laura, le Bataclan. 10 ans après. Michel Pomared, Franck Lilin. Premier épisode. Victime et témoin.
Je suis Laura. Je suis née dans le Nord, près de Valenciennes. J'ai 41 ans aujourd'hui. Et ma vie avant, une vie plutôt ordinaire, bosseuse, passionnée de musique et pas trop de projets. Mais juste envie de vivre. Je suis arrivée en 2009. Je suis arrivée en solo. J'avais pas trop d'idées, mais je voulais m'installer ici pour vivre des choses. Me libérer un peu du Nord, de la famille, changer, rencontrer d'autres personnes et tenter un nouveau boulot. Mon boulot, au début, c'était plutôt alimentaire. J'étais assistante de direction. J'avais fait ça parce que dans notre famille, c'est il faut trouver un taf pour manger et sans forcément avoir de passion pour son métier, quoi. Ça me démangeait un peu, mais j'osais pas trop en parler, donc j'ai commencé par la guitare quand je faisais mes études à Lille. Et puis quand je suis arrivée à Paris, j'avais déjà un peu chanté. Et puis j'ai répondu à une annonce en ligne. Un vieux site qui s'appelle Zikinf, ça existe encore, je pense. Et j'ai rencontré des nanas super et on a monté un groupe.
Je m'appelle Anne-Laure et je connais Laura depuis à peu près 13 ans. 13 ans qu'on est amis et qu'on fait de la musique ensemble. On joue ensemble dans un groupe qui s'appelle The Traps où je fais de la guitare et elle est au chant. Voilà. Au début, en fait, quand j'ai rencontré Laura, je cherchais à monter un groupe. On se connaissait pas avant ça. J'avais publié une petite annonce sur Internet pour former un groupe. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Moi, j'avais pour idée surtout de trouver une musicienne, une chanteuse, mais j'avais pas forcément pour idée de trouver une amie. Et là, en l'occurrence, j'ai trouvé une amie. À partir de là, on a vraiment commencé à créer des liens qui sont très forts, que ce soit par la musique, mais aussi en dehors de la musique, on se voyait énormément. C'est toujours le cas, bien évidemment. C'est une amitié à la fois qui se construit autour d'une passion et à la fois aussi en perso, où on se voit très régulièrement, on se confie beaucoup l'une à l'autre.
En 2015, ça fait maintenant 5 ans que je suis chanteuse dans un groupe de rock. Nous nous produisons, mes amis et moi, très régulièrement, sur des scènes à Paris et en région. À côté, je suis assistante de direction. C'est mon boulot alimentaire, mais j'y suis très impliquée. Et d'être avec les filles sur scène, c'est une alchimie. C'est quelque chose d'assez magique et unique. C'est quelque chose qui m'appartient, déjà, je dirais. Ça m'appartient, en même temps j'aime beaucoup partager cette émotion, ce qu'on ressent et le transmettre au public. Mais c'est un sentiment de puissance assez incroyable.
Elles avaient un concert et j'étais dans le public. Voilà. Elle est magnifique. Voilà. Mais Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, en fait. Je retiens beaucoup mes émotions et tout ça, mais je savais que c'était elle. Et je m'appelle Andy, j'ai 44 ans. Avec Laura, on s'est rencontrés fin août 2013.
On est, je pense, toujours des nanas assez simples, ordinaires. On n'avait pas des looks de grunge ou d'hard rockeuse du moment. Et à nous entendre, c'était assez surprenant. Donc, les gens se laissaient prendre au piège par rapport à ce qu'on était et ce qu'on en sortait. Pillow Fight, c'était une de nos premières compos. On écrivait avec Anne-Laure souvent, à deux. Ça évoque surtout un côté jeunesse un peu folle, quoi. Mais c'est plus trop ma cam, quoi. Mais je l'aime beaucoup par nostalgie, mais moins maintenant. On le jouera plus, je pense. Eagles of Death Metal, je les connaissais pas. C'est Mélina, la batteuse du groupe, qui avait initié cette idée d'aller les voir. Et elle avait pris les places pour nous deux. On était juste deux à la base. Et Mélina, quelques jours avant, je crois, doit annuler parce qu'elle a un souci de santé. Et moi, je décide d'y aller parce que j'aimais bien découvrir des artistes. J'avais quand même hésité parce que c'était un vendredi en fin de journée de travail un peu pénible. Mais j'y suis allée seule parce que ça ne me dérangeait pas. Et je me suis installée au début de la salle, quoi, devant le bar. Je pensais trouver des gens que je connaissais puisqu'on croisait tout le temps deux ou trois têtes qu'on connaissait. Mais là, en fait, il n'y avait personne. Donc j'étais un peu déçue. Personne que je connaissais. Le groupe est arrivé. J'essaye de me mettre un peu dedans parce que finalement, je connais pas, c'est un peu difficile à la découverte. Je scrute un peu tout le monde pour essayer de trouver des têtes que je connais, mais je me dis, ok, c'est sympa, le groupe a l'air d'avoir une bonne énergie. Mais bon, je me dis, allez, encore 2-3 morceaux et puis je me casse. Au moment où je me dis ça, il y a une bonne énergie, donc j'hésite quand même, il faut sortir, il faut se frayer un chemin pour la sortie. Et puis des bruits soudains arrivent qui n'ont rien à voir avec le concert. Et puis démarre la fusillade que je comprends en quelques secondes, quoi. Les tireurs sont sur ma droite. Je les vois pas. Je devine ce qui se passe. Et donc la foule, en fait, m'écrase. Et le mouvement de foule me pousse vers la gauche. Mais je suis touchée très vite derrière la jambe. Et puis je m'effondre au sol parce que impossible de bouger, quoi. Et là, en fait, je sais que je crie parce que j'ai peur qu'on m'écrase. Et c'est surtout le mouvement de foule qui est assez impressionnant. Et c'est impossible à maîtriser, quoi. Des gens qui paniquent. On ne sait pas dans quel sens ça va. On est dans tous les sens. Et je reçois encore des balles. Alors que je suis au sol. J'ai l'impression que ça me traverse partout, surtout le haut du corps. C'est des secousses assez fortes, c'est pas... Pas évidemment, c'est pas ce que c'est de recevoir une balle, mais c'est juste l'impression que t'es secoué à gauche, à droite, et... Juste être traversé, en fait. Traversé par quelque chose. J'essaye d'écouter, de comprendre. Alors comprendre, je sais ce qui se passe. Parce qu'en fait, j'ai entendu leur message. Ils crient un truc du genre « c'est à cause de votre président qu'on est là ». Un truc du genre, je crois que dans ma mémoire, c'est ça. J'entends les tirs, les cris. Très vite, je me dis « il faut se protéger, se sécuriser en fait ». Déjà comprendre qui est autour de moi, qu'est-ce qui reste. Parce que très vite, bon après la foule se calme parce qu'il y a des gens qui très vite jouent les morts comme moi. On fait semblant d'être mort, pas bouger, pas respirer, pas parler. À peine ouvrir les yeux, c'est ce que je faisais moi. J'essaye d'assimiler en fermant les yeux tout ce qui se passe autour de moi. Donc là, à ce moment-là, en fait, mes autres sens se mettent en marche et j'essaye d'analyser et de me dire là, j'ai pas le choix que d'attendre quelque chose, quelqu'un, pour me sortir de là. Étonnamment, au début, les premières pensées que j'ai quand je suis scotchée au sol et que je peux pas sortir, je pense à des trucs débiles, genre le lundi, je pourrais pas aller bosser, je sais pas ce que je vais raconter au boulot. Je pense à mon chat qui est à l'appart tout seul, parce qu'à l'époque, on vivait pas encore ensemble avec mon mari. Je dis, mais mon chat, il est tout seul à la maison, je sais pas comment je vais rentrer, etc. Donc des choses comme ça. Et ensuite, ensuite, je trouve le temps long. Je sais absolument pas combien de temps il passe. Vraiment, ça, c'est un truc qui m'est resté très longtemps, c'est la chronologie des faits, le temps qui passe. Et quand je sens un peu mes forces se lâcher, et puis parce que j'avais tenté d'appeler, j'avais réussi à attraper mon téléphone et tenter d'appeler, personne ne répondait. Je me suis dit, ok, donc j'étais vivante et j'étais consciente. Et je me suis dit, en fait, c'est peut-être ça de mourir, il faut peut-être juste attendre et puis je vais m'endormir. Et j'ai vraiment pensé ça, je me dis, je sens que je me relâche. Et je me dis, ok, donc c'est là, quoi. J'attends. Et puis, et c'est là que je décide de tenir bon. Il y a des corps qui bougent plus. Donc je sais pas s'ils sont vivants ou s'ils font comme moi. S'ils sont morts, pardon, ils font comme moi. Il y a des gens qui bougent, qui lèvent la tête comme moi, on se regarde, on sait pas quoi faire. Il y a des gens qui appellent à l'aide et j'entends des voix qui disent « Mais taisez-vous, surtout, bougez pas. » Il y a eu un mouvement de foule à un moment parce que il y a un flic qui est passé et ensuite ils ont réussi à faire rentrer une brigade pour sécuriser et faire dégager des gens auxquels j'ai pas pu participer, cette première vague qui est sortie. Et c'est là que j'ai demandé à l'aide, en fait. Parce que je me dis, quelqu'un va me tirer et me sortir dans cette première vague de sortie. Et en fait, la brigade s'était mise autour de nous. J'avais levé la main pour me dire, je suis là, enfin, sortez-moi, quoi. C'est l'un d'eux qui m'a sorti, qui m'a traîné au sol, donc au niveau du bar jusqu'à la porte, pour me mettre devant la porte. Et c'était la douleur la plus horrible que j'ai connue. Je crois que je me démembrais, en fait, tout simplement. Et là, en fait, on m'a juste transporté sur une barrière de rue, vous voyez. Rien que ce mouvement de passer du sol à une barrière, c'était horrible. Je criais non, mais en même temps j'avais envie qu'on me sorte de là, mais c'était tellement douloureux, tellement horrible. Et ensuite, de cette porte du Bataclan, Je sens qu'on est dans la rue, je vois juste le ciel, la barrière qui secoue et les douleurs qui transpercent mon corps. Et en fait, je sens qu'on fait un tour dans la rue, je sais pas, ça tourne, etc. Et on arrive dans une cour. Donc moi, je vois juste les bâtiments qui m'entourent, en fait. Je vois le ciel, le bâtiment qui m'entoure. Et on est dans une cour pavée. Et là, j'entends des tas de gens se courir autour, les secours, etc. Et là, je vois une secouriste, je crois, qui m'allonge à nouveau sur le sol, donc encore un mouvement difficile. Elle découpe mes vêtements et je lui dis, Me laissez pas mourir.
Le 13 novembre 2015, alors dans la soirée, je suis pas à l'extérieur, je crois que je passe une soirée chez moi, tranquillement. Et Andy m'a appelé complètement paniquée en me disant « Mais Laura est là-bas, Laura est là-bas », donc du coup ça m'a un peu heurté de plein fouet. Donc ça a été une panique, une anxiété terrible.
Moi j'ai cru que c'était dans une autre salle où elle était. Et en fait, j'ai regardé sur internet et que c'était le Bataclan et... À partir de là, j'ai commencé à déjà appeler nos connaissances. Et après, à savoir, il y avait les inquiétudes. Est-ce qu'elle est morte ou pas? On a commencé à faire le tour des hôpitaux. Et après, dans l'après-midi, on était parti à l'école militaire parce que on avait entendu aussi à la radio que c'était là les listes en fait des gens qui étaient partis de l'autre côté quoi. Et c'était vers 17h par là que Mélina m'appelle et elle me dit que elle est à Georges Pompidou. Elle a perdu deux doigts et que l'ont mis en fait dans un coma artificiel.
Comment pouvais-je imaginer que mon corps alité pendant des semaines perde entièrement sa capacité à se mouvoir et perdre tous ses muscles? À cela s'ajoutent les plaies, les fractures, les escarres et l'intubation. Je repars de zéro, les fonctions primaires. Réapprendre à respirer, boire, manger, uriner, tenir un objet en main. Ma main gauche amputée de deux doigts. Tenir assise, un vrai calvaire. Tout réapprendre, jusqu'au but ultime, remarcher, qui arrivera plus de 9 mois plus tard, comme les premiers pas d'un enfant.
Je reviens à l'hôpital, elle se fait opérer, et c'était opération, opération, opération à chaque fois.
Je suis le docteur Sébastien Moreau, je suis chirurgien orthopédiste à Paris, actuellement à l'Institut Mutualiste Montsouris. Et lorsque j'ai pris en charge Laura au cours des événements du Bataclan, j'étais chef de clinique à l'hôpital européen Georges Pompidou. Alors en fait, Laura est arrivée le soir du Bataclan et elle a été prise en charge immédiatement par l'équipe chirurgicale qui était de garde à l'époque. Et ils ont dû réaliser donc un pontage artériel en urgence associé à une... Ils ont mis un clou dans l'os du bras pour pouvoir bien l'aligner. Ensuite, il y a eu des gestes aussi où ils ont dû réséquer des doigts parce que la main était très abîmée. Et moi, en fait, je ne l'ai prise en charge que le lendemain dans un second temps pour poursuivre les démarches chirurgicales, si vous voulez. Et là, la radiographie que je vous montre, en fait, elle est issue du scanner qui retrouve donc le fémur droit qui a été multifracturé par des impacts de balles avec des fragments osseux un peu répartis partout dans la cuisse et des fragments métalliques qui peuvent faire penser à de la grenaille métallique qui sont en fait des fragments de balles qu'elle a reçus. C'est la journée du samedi, on est en fin d'après-midi, elle est maintenue en fait dans le coma artificiel depuis son arrivée. Donc le premier temps, ça a été le bras, ensuite il y a eu un temps digestif parce qu'il y a eu aussi des lésions au niveau de l'abdomen. Et moi, je la prends en charge une fois qu'elle est un peu stabilisée d'un point de vue vital, si vous voulez, pour prendre en charge la cuisse. Je vais pratiquer la même chose qu'au niveau du bras, c'est-à-dire que je vais être obligé de mettre des plaques avec des vis pour aligner les fragments osseux, nettoyer au mieux la plaie opératoire pour retirer les objets métalliques qui sont en fait des fragments de balles, et refermer tout ça. Alors en fait, concernant la cuisse droite, et d'ailleurs comme concernant quasiment toutes les autres interventions, il y a eu besoin de plusieurs chirurgies pour réussir à obtenir, dans mon cas, la consolidation. Parce qu'en fait, il y a eu plusieurs infections ensuite au niveau de la cuisse droite qui ont eu lieu. Lorsqu'elle était toujours dans le coma en réanimation, il a fallu plusieurs fois réouvrir la cuisse pour nettoyer, pour pouvoir retirer les microbes qui s'étaient mis dedans. Et puis ensuite, je l'ai suivi quand je suis venu à Montsouris. Et par deux fois, j'ai dû ajouter dans le foyer de fracture de la greffe d'os que je suis allé prendre au niveau de son bassin pour apporter des cellules osseuses fraîches pour pouvoir obtenir la consolidation. Elle est restée longtemps en réanimation et tout de suite on a su qu'elle avait des amis, qu'elle avait un copain et qu'il y avait un entourage familial parce qu'il y avait des photos et il y avait des mots dans sa chambre de réanimation qui prouvaient qu'elle était bien entourée.
Ben déjà le 13 novembre, je crois que c'était le 14 novembre, ben, tous mes cheveux blancs ils sont tous apparus tout d'un coup comme ça. Voilà. Je pense que c'est un stress, inquiétude ou quelque chose comme ça, mais de toute façon, moi, je dans ma tête, c'était, fallait pas se débiner. Peu importe l'état où elle va se trouver ou quelque chose comme ça, mais. Il y a l'amour, il y a la responsabilité aussi en même temps. Même si on n'était pas mariés à l'époque. Et que, pour moi, c'était logique.
Et je me souviens d'une chose, c'est la première fois qu'on l'a remise au fauteuil, la première fois qu'on l'a remise debout, la première fois qu'on l'a vue commencer à se débrouiller, alors qu'à un moment, on s'était posé la question de... Vous savez, l'histoire de l'acharnement thérapeutique, est-ce qu'on n'en fait pas trop, est-ce qu'on n'aurait pas dû, mais sauf qu'en fait, à 35 ans, évidemment qu'il faut se battre. Et donc, l'équipe réanimatoire et l'équipe chirurgicale, on s'est jamais posé la question d'arrêter.
Alors, c'est le docteur Sébastien Moreau, qui est pour moi un génie, qui m'a toujours un peu impressionnée, parce qu'il a une posture... très neutre, je sais pas, peut-être les chirurgiens sont comme ça, je pense. Ils vont en imposer un peu. Alors que derrière, je vois bien que c'est un gars un peu sympa. Mais il m'a très vite rassurée sur la jambe parce que c'est lui qui l'a sauvée. Il m'a dit plusieurs années après qu'il avait tenu tous ses collègues en disant « il faut absolument sauver sa jambe, on peut pas l'enlever, ça va marcher ». Donc c'est lui qui a fait la greffe. Première greffe, il a réparé, il avait mis une plaque. Enfin, il a ses termes. Hein. Et puis, il la réopérera plus tard en 2019, puisque la greffe, la première, n'avait pas tenu. Je pense que mon corps était tellement fatigué d'avoir subi des tas de trucs que la première greffe, la première greffe osseuse n'avait pas tenu. Il refait une opération en 2019, parce que c'est lui que je voulais comme chirurgien. C'est lui qui connaissait par cœur mon corps. Donc, il me réopère et puis je repasse quelques mois en rééducation. Et là, la greffe tient et je le revois de temps en temps pour m'assurer que c'est OK. Et ce qui est drôle avec lui, c'est qu'on peut... Il me dit, c'est bon, vous allez mourir avec, vous pouvez garder votre plaque, c'est cool, ça va tenir. Pareil pour le bras d'ailleurs. On va vous laisser tranquille maintenant.
Alors moi, il faut quand même savoir que moi, je n'étais pas du tout censé l'opérer. Parce que quand c'est arrivé tout ça, faut pas vous imaginer qu'il y a 6 chirurgiens de garde toutes les nuits. Les chirurgiens de garde, il y en a un plus un d'astreinte. Mais comme ceux qui étaient de garde vendredi, ils ont opéré toute la nuit, ils étaient complètement rincés le samedi matin. Ce qui fait qu'on m'a appelé et moi j'étais en Normandie. On m'a dit, bah voilà, maintenant c'est pour toi, tu viens en garde. Donc je suis rentré de Normandie et j'ai opéré tout le samedi jusqu'au dimanche midi sans m'arrêter. Et je vous dis, les autres, je ne les ai pas revus, mais Laura, je l'ai suivi. Et effectivement, quand on se revoit, on a tous les deux les yeux qui brillent.
Mon trauma aujourd'hui, c'est tout ça. La fragilité de mon corps, la peur des autres, la difficulté du quotidien, les procédures, la solitude, la perte de mon enthousiasme et de la spontanéité. L'innocence et la liberté n'existent plus. Enfin, c'est aussi l'effet dévastateur sur ma famille, mes amis et mon mari. Il m'a accompagnée et m'accompagne toujours. Depuis ce drame, mon caractère n'est pas simple à gérer et il encaisse mes angoisses, mes colères, mes impatiences. Je suis usée de vivre ainsi.
À chaque fois qu'on avance, on est plus solide. Même si elle dit que je ne parle jamais à la maison, tu t'exprimes jamais ou quelque chose comme ça. Moi, ce que je ressens, c'est à chaque pas qu'on fait, en fait, on se sent renforcé. Je lui ai jamais dit.
Victime et témoin, avec le chirurgien Sébastien Moreau, Andy, le mari de Laura, ses amies musiciennes Anne-Laure et Morgane, et bien sûr Laura. Un documentaire de Michel Pomarède.